France Inter.
Je crois que c'est un des éléments d'une crise de civilisation qui est devant nous et qui va arriver.
CO2, mon amour.
Qui n'est pas encore arrivé, mais qui va arriver. D'une civilisation qui est probablement trop technique et trop industrielle et trop urbaine, de sorte qu'elle crée un mouvement de fuite.
Avec Denis Chessoux.
Un mouvement de répulsion, de réaction vers la nature. Et vers le primitif aussi.
Sur France Inter.
Eh bien ça, c'était la voix de Jean-Marie, mais en 1970. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans CO2 Mon Amour, la nature qui chuchote à vos oreilles, avec Julien Dumont à la technique, notre collaboratrice c'est Camille Blanès, et Jérôme Boulet réalise l'émission. Alors, c'était quelques jours avant Noël. Dans la crèche, on a fait les tests. Et alors, bonne nouvelle, le bœuf n'était pas touché par la dermatose nodulaire. Comme son carnet de commandes était plein, Joseph continuait à fabriquer des charpentes avec du bois local. Marie savait qu'elle allait bientôt accoucher de son petit. Aussi a-t-elle acheté en librairie « J'attends un bébé » qui fera parler de lui pendant plus de 2000 ans. À Bethléem, on était pauvres. On n'avait pas installé le chauffage. L'âne, animal intelligent et travailleur de force, ne se doutait pas, avec son copain le bœuf, qu'il ferait le buzz en réchauffant le petit de leur souffle chaud. Le Père Noël, aidé depuis peu par l'IA, rationalisait à fond son trajet autour de la Terre. Aucun logisticien ne lui arrivait à la cheville. Ah, il ne fallait pas qu'il se loupe, car à Bercy, tous comptaient sur lui pour faire monter le PIB et rentrer la TVA. Ces rennes, contrairement à ce qu'il allait livrer, n'étaient pas fabriquées en Chine. De vraies rennes du Grand Nord, solides, tant qu'il y aurait des lichens à brouter. Il y a 10 ans, sur son plateau lorrain, Jean-Marie Pelt se réjouissait de ce 21 décembre, du solstice d'hiver dans notre hémisphère nord. Il marque le jour le plus court et la nuit la plus longue de l'année, ainsi que le premier jour de l'hiver astronomique. Il savait que dès demain, la lumière allait repousser. En fait, Jean-Marie Pelt faisait remonter toutes les lumières dès qu'on était avec lui. Ses mots, son amitié, sa clairvoyance, son humour et notre complicité de 25 ans nous ravivaient. Nous avions besoin d'une dizaine de fois par an de nous rejoindre. Alors certes, pour enregistrer les 250 séquences que j'ai gardées, mais surtout pour être bien ensemble dans son jardin. C'était il y a 10 ans. Son cœur de battre s'est arrêté, juste après la remontée de la lumière et la veille de la naissance de Jésus. Il ne voulait pas lui faire de l'ombre, c'était son frère de cœur et d'esprit. Aussi est-il parti le 23 décembre 2015 rejoindre l'étoile qui porte son nom. Et ce mercredi d'hiver, moi je me souviens, il y a eu un léger frémissement dans l'air, puis une envolée de pollen vers le ciel. Les abeilles, pourtant au repos, ont colporté la nouvelle. Tes mirabelliers, tes noyers ont compris tout de suite. Dans le monde entier, les plantes et les forêts ont su les premières, avant les femmes et les hommes. Elles se sont donné le pistil, le rhizome, la feuille, la fleur, la branche. De battre son cœur s'est arrêté, de battre son cœur s'est arrêté, comme un battement d'ailes de papillon. Ce fut une traînée de larmes et d'amour. Petit Jean était mort. Il est parti rejoindre les siens à Rodemack, quelques heures avant la nativité, avant Noël donc, avec un sens du timing. Est-ce que tu l'as fait exprès ? La nature, la science, l'engagement et la foi réunis dans le même bonhomme, pionnier visionnaire de l'écologie. Petit Jean est toujours resté un enfant, avec sa capacité d'émerveillement, son érudition, son sens critique, mais avant tout un enfant, un Petit Jean. Aussi pour ses 10 ans, et comme dans quelques mois après mon départ, je ne suis pas totalement certain qu'on parlera de lui sur France Inter ou ailleurs, je vais vous proposer une dernière balade dans son jardin.
To watch it blow, and if you never call, a cold bed full of scorpions. The venom stole her sanity. And if you'd never called for me, I might have lingered in purgatory. You wrap around me like a chain, a crown of fire, pulling me into the fire. All that time I sat alone in my tower, you were just honing your powers. Now I can see. Inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me. Locked inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me. You saved my heart from the fate of Ophelia.
Oh, bah c'était bien du Taylor Swift, ou alors je ne m'y connais pas, choisi par Valentine Chédebois, notre programmatrice. Alors Jean-Marie Pelt était un savant, un encyclopédiste des Lumières. Monsanto, les marchands de phyto, Areva à l'époque, les fabricants d'amiante et d'OGM, ont fait l'économie d'une couronne de fleurs à ton enterrement. Ben, ce sera beaucoup mieux ainsi, car elles auraient été arrosées de pesticides, me disait-il. Eh bien oui, on riait de notre mort. Alors évidemment, tu n'as jamais eu peur d'elle parce que tu savais que tu serais sauvé. Tu étais un médicament naturel sans contrefaçon, un anticyclone de sagesse face à la bêtise, un rempart de belle spiritualité face à la consommation effrénée qui décapite le vivant. Alors de la laïcité, tu étais un ardent défenseur, et puis les critiques se cognaient sur ta rondeur. Eh oui, et tu aimais aussi le cosmos, ses étoiles, la Voie lactée. Et si tu aimais les fleurs, c'est aussi parce qu'il y avait des humains pour les regarder. Alors écoutez, c'était il y a une quinzaine d'années. Nous venions d'enregistrer une série de séquences sur différents thèmes établis à l'avance. Et puis, on prenait l'air dans son jardin lorrain en Moselle, à Altrof, et en improvisation.
Bon, où est-il dans ce grand jardin? Où êtes-vous, Jean-Marie?
Je suis près de la rose.
Ah, il est près de la rose, voilà.
Près de la rose.
Ah bah oui, on peut même vous...
Oh, Denis, c'est une rose extraordinaire.
Ouais.
C'est une rose remontante. Mais elle n'était pas descendue avant.
Ah, c'est ça.
Parce qu'elle n'a pas fleuri pendant cet été. Je pense qu'elle a souffert du froid et du manque de soleil. Et je m'ennuyais après elle cet été. Et voilà qu'aujourd'hui... elle a éclaté son bouton. Oui, c'est parce que tu es là.
Mais oui, c'est ça.
Oui, c'est absolument. Il n'y a aucun doute là-dessus. Oui. C'est absolument clair. Ouais. Et puis, elle tient compagnie au gros couetchier, qui est bourré de couetch. Par terre, c'est tout bleu.
Ah, je confirme, on a l'impression de marcher sur la mer. Oui, hein, quand on est dessous.
Tout à fait. Tout à fait, parce que c'est tout bleu.
Oui. Et, voilà. Alors, les noyers ne sont pas encore complètement au point. Il y en a un à droite. Alors, tout ça, évidemment, quand je dis c'est bio, c'est même pas la peine de dire ça. C'est qu'ils ne sont pas traités, quoi, en fait. Ils sont...
Tout le jardin est bio. Il n'y a pas un gramme de chimie dans ce jardin. Et le noyer est en avance, bizarrement.
C'est ça.
On est quand même début septembre, d'habitude c'est plutôt vers la fin septembre, mais il s'est empressé parce qu'il savait où vous veniez.
Ben c'est ça.
Et que vous lui avez fait honneur.
Oui, ah ben,
voilà, vous partirez avec un sac de noix.
Oui,
c'est très important. On part toujours avec un sac de ce jardin.
Et on ne pourra pas les distribuer à nos amis qui nous écoutent, qui le regrettent, parce qu'une noix de Jean-Marie Pell, quand même, c'est quelque chose, c'est une belle valeur symbolique.
Ils ont la voix.
Ils ont, ben oui.
Ils n'ont pas la noix, mais ils ont la voix.
Ils ont la voix, c'est déjà pas mal. Ben nous, on va casser la noix et pas forcément casser la voix. Et là, d'ailleurs, en avançant doucement, là, ce qui est très intéressant, c'est que dans votre jardin, on ne l'avait pas dit ça, mais en fait, vous pratiquez un peu la coupe différenciée, c'est-à-dire que vous laissez des touffes, des bandes absolument enherbées.
Oui.
Un côté un petit peu punk que l'on aime bien sur France Inter, voilà.
Absolument.
Du jardin.
Oui, parce qu'on est respectueux de la biodiversité, alors on laisse des espaces qui sont en herbe.
Ah, ouais.
Notre jardinier, il est très sensible à l'écologie. C'est très bien d'avoir un jardinier comme on a nous.
Bah, écoutez, je pense qu'il n'avait pas le choix quand même avec vous, non? Vous l'auriez viré.
Nous avons partagé nos sentiments et nous étions d'accord.
Alors c'est là, une fois de plus, et on le sait depuis des années, que vous réfléchissez, que vous devisez. C'est pas là que vous écrivez, mais c'est parce que là vous écrivez vous plutôt derrière dans la cuisine.
Hein. Oui. Dans la cuisine, oui.
Oui, je sais bien.
Oui, c'est très original.
Mais en revanche, les idées fonctionnent et viennent ici. Aujourd'hui, alors c'est toujours évidemment, à chaque fois qu'on se voit, on se dit « mais jusqu'où va-t-on aller ?» Mais comment vous voyez un peu l'état de notre très belle société ?
Ah, une douce décadence. je croyais qu'on était légèrement décadent, mais je fais bouger le curseur et je trouve qu'on le devient de plus en plus. Alors, ça me rappelle l'époque où le paracétamol n'était pas encore le remède miracle contre toutes les douleurs, contre les maux de tête, etc.
Ouais.
C'était l'époque de l'aspro.
C'est ça.
Je vous souviens de l'époque de l'aspro,
tout le monde
prenait de l'aspro. Alors l'aspro, c'était des comprimés, c'est-à-dire que pour fabriquer ce comprimé, on pressait fort la poudre et puis elle se tenait ensemble. Et puis on disait, l'aspro, il ne faut pas la prendre comme ça, il faut la prendre dans l'eau. Alors on mettait l'aspro dans l'eau et alors on assistait à une lente désagrégation. Une délitation du comprimé avec des grumeaux qui partaient dans tous les sens, dans un désordre complet.
Oui.
Et je trouve que c'est une très belle image du fonctionnement de notre étonnante société.
Oui,
oui, c'est comme ça que je vois les choses. Oh. Ça se délite.
Oui. Mais joyeusement, c'est ça qui est...
Joyeusement, d'ailleurs, le problème, c'est qu'on rit.
Oui, bah, oui. Il vaut mieux.
Je suis très en forme ce soir.
Oui, ce que je vois.
Oui, très oui.
Oui, c'est...
Non, mais je pense ça quand je lis le journal.
Ouais.
Je suis toujours stupéfait. Et je me dis, ça se délite gentiment.
On passe à côté. Ah ben si, il y a quand même là il y a quelques mûriers, mais il y a aussi le groseillier. Et ça, c'est intéressant parce que on ne le sait pas forcément, mais vous devez votre vocation grâce à la groseille, Jean-Marie.
Oui. Oh, ça c'est une histoire très drôle. J'ai passé mon agrégation de pharmacie.
Oui.
Avant, j'avais fait une licence et sciences et des études de pharmacie. Et puis, comme j'avais autrefois eu l'idée de rentrer à l'ENA, et qu'on m'avait dit dans ma famille... Oui, ça, j'aimais beaucoup.
Ah, oui.
Et dans ma famille, on m'a dit, mais voyons, c'est pas le petit Jean de Rodemack qui va rentrer à l'ENA. Alors, j'ai fait l'Institut d'administration des entreprises, toujours avant mon agrégation, et puis ça a bien marché. Je suis sorti premier de la promo. Et voilà-t-il pas que les collègues professeurs de la fac de droit, deux d'entre eux, se sont mis dans la caboche que je devrais faire maintenant une agrégation de droit. Alors j'ai commencé une licence de droit.
On n'est toujours pas à la groseille, mais on va y arriver.
On va y arriver, on est tout prêt. Et puis j'ai fait la licence de droit pendant toute une année. Et puis à la fin de l'année, j'ai commencé à étudier mes cours. Alors j'en étais arrivé en droit privé. Au concubinage. Et maman est sortie à ce moment-là de la cuisine et montée au jardin, me voit travailler, me dit « Qu'est-ce que tu fais, Jean ?»« Oh, j'ai dit, écoute, je revise le mariage. »« Bon, moi, je vais cueillir les groseilles pour faire de la gelée de groseille. » À un moment, se met à cuire les groseilles. Tout d'un coup, il crie et dit « Viens m'aider !» Ah, j'ai dit « Je ne peux pas, hein. Je prépare mon examen. »
J'ai un mariage sur le feu.
Oui. Alors, elle me dit « Jean, mais tu es vraiment fou. Mais pourquoi tu t'es mal mis dans la tête de faire des études de droit, puisque tu as déjà fait les sciences, tu as déjà été à la fac de droit, tu as fait la pharmacie. Quelle idée !» Oh, je me suis dit, oui, quelle drôle d'idée.
Oui.
J'ai dit, je viens t'aider à cueillir les groseilles. Et j'ai fermé tous les cours et le droit était fini. Non, mais... Et c'est ainsi que le droit a fini dans les groseilles. Voilà. C'est un épisode important de mon existence.
Bien sûr.
Qui m'a réorienté tout droit dans la pharmacie.
Continuez à faire le tour de votre jardin. C'est assez grand quand même, hein, mine de rien. Voilà.
Oui, c'est grand. C'est un demi-hectare.
Ouais, c'est
oui,
ça.
C'est un beau jardin, oui, c'est vrai.
Et puis là c'était moissonné par votre voisin, là, ça y est, c'est fait.
Oui, ça s'est fait. Beaucoup d'arbres et pas de murs. Je ne voulais pas de murs.
Non. Enfin, si, avec les ronciers, c'est tout.
Oui, avec les ronciers, ouais, oui. Et puis avec les érables, les grands érables qui nous séparent de la route. Hein. Ouais. Oui.
Et là, cette année, c'était du blé, hein, qu'il y avait...
C'était du blé, absolument.
Oui, il change. Hein. Tous les ans, il change de culture.
Tout à fait. Ça fonctionne comme autrefois.
Alors, quand on regarde un peu l'état, on va dire, écologique des choses, cette émission quand même dédiée à l'écologie, qu'est-ce que vous avez un peu envie de dire lorsque vous voyez... Alors, bon, on rappelle simplement que la France, de toute façon, est quand même plus ou moins ligotée par de la finance extérieure, par des multinationales, qu'on représente 1% de la population, enfin, à peine. Et pour autant, on est un pays génial. Bon, donc... mais d'un point de vue écologique...
Je suis très inquiet pour le réchauffement climatique. Je suis l'évolution de la météo depuis 1963, année où j'ai commencé à travailler l'écologie, il y a donc très longtemps, plus de 40 ans, et je remarque qu'il y a des phénomènes météorologiques de plus en plus violents et de plus en plus fréquents. Tout le monde voit ça. À l'époque... Il était arrivé, une fois je me rappelle, qui était tombé je ne sais plus où, des grelons gros comme des balles de ping-pong. Ah, alors, ça a été un événement extraordinaire. Toutes les radios en ont parlé, enfin, c'était vraiment quelque chose de très rare. Ça arrivait, mais rarement. Alors maintenant, ça arrive tout le temps. Maintenant, on voit des voitures qui nagent sur l'eau, on voit des coulées de boue, et ces événements... sont devenus très fréquents. Alors je suis inquiet, parce que ça, c'est ce qui se produit quand la moyenne des températures en France a augmenté de 1 degré, depuis le début des temps industriels.
Et avec une accélération, on va dire, de 80% depuis les 30 ou 35 dernières années. C'est surtout ça qu'il faut voir, c'est la rapidité du phénomène.
Récent et rapide, tout à fait. Et on dit, on écrit... que parti comme on est, en 2100, donc le bébé qui est né aujourd'hui aura 86 ans, il sera encore vivant, on aura augmenté les températures de 4 à 5 degrés, si on continue comme ça.
C'est vrai que c'est invivable.
C'est impossible, c'est absolument impossible. Il y a des canicules monstrueuses, il y a des sécheresses épouvantables, il y a des ouragans épouvantables, c'est impossible. Et je vois que, dans le monde entier, les gouvernements s'intéressent à la croissance et qu'à ça. Donc voilà, ça m'inquiète énormément.
Et les multinationales.
Et les multinationales. Et ça m'inquiète énormément.
Alors Jean-Marie, il y a quand même un signe intéressant... C'est de voir les réassureurs, les réassureurs de nos assurances, qui prennent quand même très au sérieux le réchauffement climatique.
Tout à fait. Les réassureurs sont très inquiets, parce qu'eux constatent le coût des indemnisations qu'ils sont amenés à faire. Et ils dépensent, je crois, aux États-Unis 4 à 5 fois plus qu'il y a 30 ans. C'est assez extraordinaire, ça. Alors, bizarrement, il n'y a pas plus de victimes humaines parce qu'on a maintenant une météo qui peut prévoir, parce qu'on a des moyens de construire avec plus de prudence, parce que Les gens sont prêts à prendre des mesures de précaution. Il n'y a donc pas plus de victimes qu'autrefois, mais il y a potentiellement beaucoup, beaucoup plus de catastrophes en l'air.
Et puis, il y a quand même toutes celles et ceux qui nous écoutent. Il y a aussi des collectivités, on le sait, qui bougent. On le dit, on le répète, on l'entend. Tout ceci est quand même dans une marche, dans une autre manière d'envisager le monde qui n'a rien à voir avec ce que l'on nous matraque à longueur de journée. Quoi.
Non, il faut tout revoir. C'est-à-dire que moi, je crois qu'on est vraiment à la fin d'un cycle et au début d'un autre cycle. Ce cycle s'ouvre sur des perspectives très sombres. Le djihadisme, c'est effrayant. Je me dis toujours, dans tous les pays où j'ai travaillé, je pourrais plus retourner.
Oui, c'est vrai.
C'est incontestable.
Vous avez fait l'Irak, l'Afghanistan, l'Iran, etc.
J'avais tout ça, on aurait pu y aller. Il y a une agressivité partout, entre les personnes, au niveau des groupes, au niveau des entreprises, au niveau des États. Alors si on fait la liste des États qui sont en tension les uns contre les autres, on a la moitié du monde à peu près.
C'est ça.
Je me suis amusé à la faire un jour, cette liste. Voilà, alors nous devons être des apôtres de la paix. La paix. Et dans l'écologie, on porte la paix. Parce qu'on dit, il n'y a pas que la compétition partout, il y a la coopération. Et la coopération, c'est le vivre ensemble en paix.
On ne va pas faire un recensement, on ne va pas faire l'INSEE, là, mais combien vous avez d'espèces à peu près différentes ici ?
Je pense 200, en comptant les mousses qui sont... Elles sont nombreuses, les mousses, parce qu'il y a beaucoup d'arbres. Le sol est humide et ça plaît beaucoup aux mousses, ça.
Alors je ne vais pas dire que c'est presque l'autonomie alimentaire, parce qu'il va quand même manquer quelques bricoles, mais entre la ferme du voisin là à côté...
Oui, avec la ferme du voisin et nous, on est autonome.
En fait, il n'y a que le Nutella que vous n'auriez pas.
Vous savez ce qu'on ferait ?
Oui.
Vous ne devinez jamais.
Non.
On s'en passerait.
Oui, c'est vrai ?
Oui.
Incroyable. Absolument incroyable.
On s'en passerait.
Voilà. Tenez, une plante très intéressante que vous aimez bien.
Ah, l'amour en cave.
Oui.
C'est le physalis. Ah, oh, c'est une plante que j'aime beaucoup. Vous savez, tout le monde la connaît, cette plante-là.
Ouais.
C'est les lampions, les petits lampions
orangés.
Puis quand on ouvre le lampion, au milieu, il y a une baie toute rouge. Et alors, cette baie rouge a fait peur parce qu'elle ressemble un peu aux baies de Belladone, bien que celle de Belladone soit beaucoup plus foncée.
Mm-hmm.
Mais c'est la même famille des solanacées. Et les solanacées, il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup de poison dans cette famille. Si bien que quand on ouvre un amour en cage, on a envie de manger la baie et on se dit « Ouh là là, il ne faut pas !» Si on peut. Elle n'est pas toxique.
Ouais.
Elle n'est pas très bonne non plus ailleurs.
Non,
ça s'appelle l'amour en cage, c'est très joli parce que la baie est considérée comme une petite pomme d'amour.
Voilà.
Comme on appelait les tomates autrefois.
Ouais. Eh bien, cher Jean-Marie, on va vous laisser, on va rentrer tranquillement. Merci Jean-Marie. Et puis, bon, vous avez raison, j'ai piqué quelques noix et des couettes.
Au revoir Denis, au revoir à tous, et embarquez les noix et les couettes.
Alors, on adorait ça, donc on se promenait dans son jardin, puis on partait. C'était il y a une douzaine d'années, il avait 80 ans à cette époque-là. C'est intact, tout ce qu'il raconte est absolument intact. Alors après, il me disait, viens, on va regarder le journal à la télévision pour voir ce que les hommes ont encore inventé pour bousiller la planète. Et après, à table. Eh bien écoutez, nous on va en parler aussi de Jean-Marie avec Corinne Lepage et Marc-André Sellos dans quelques instants.
Rester la nuit pour observer les étoiles, couché sur le dos dans le frais du gazon, ça suffirait parfois pour qu'au-delà des illusions, on puisse se dire y a de bons moments quand même. Se lever quand la brume étend à ses voiles, au jardin bleu dont on ne voit même plus le fond, faire quelques pas et regarder jusqu'à l'horizon, où c'est qu'au-delà quelqu'un vous aime. Je le sens bien déjà, c'est une belle journée pour moi. Et toi, ça va, ça ne dure pas, c'est pas fait pour ça. C'est une belle journée pour moi. Thank you. soleil qui brûle. Ça n'est pas bon, c'est vrai, mais ça fait du bien. Ne pas avoir à être dispo pour trois fois rien. Laisser couler les heures à la pendule. Au dernier feu tout au loin d'un ciel immense. Guetter le tout dernier rayon vert du soir. Et tout là-haut voir passer ton avion rouge et noir. Tu me reviens, je me dis que j'ai de la chance. Alors finira une bien belle journée pour toi et moi. Ça va, on aura, qui vivra verra, bien d'autres journées comme ça.
En décembre 2015, donc, disparaissait Jean-Marie Pelt et naissait cette chanson de William Scheller, Une belle journée. Alors, je ne peux pas tout balayer de sa vie. C'était quand même aussi un grand Européen. Il a été le secrétaire de Robert Schuman. Avec Jacques Florentin, il a créé l'ethnopharmacologie. Et puis, quand même, tenait cette phrase. Dans L'homme renaturé, en 1977, il disait « La croissance économique se fait au prix de la décroissance écologique, comme une tumeur cancéreuse ne s'alimente au détriment de l'organisme qu'elle épuise. Dans les deux cas, le bilan final est désastreux. » On va parler de lui avec Corinne Lepage. Bonjour Corinne Lepage.
Bonjour Denis Chessou.
On a une chance incroyable parce qu'on est dans l'Institut européen d'écologie qui est extrêmement cher, donc à Metz, à Jean-Marie, là, pour ce petit bout d'interview. Votre Jean-Marie à vous, qui était-il ?
Ah, c'était un homme très chaleureux, qui avait toujours un mot gentil à la bouche, qui m'eut bien rire, profondément croyant, avec, je dirais, une morale chevillée au corps, et un grand scientifique, mais avec une très grande simplicité, qui avait envie de faire partager sa connaissance, qui n'était jamais arrogant, même si de temps en temps il cherchait à convaincre, et à juste titre, du bien fondé de ce qu'il disait.
Alors, il a fait avancer quand même pas mal de choses. À cette époque-là, donc, il n'y avait pas encore les termes de lanceur d'alerte, mais c'était un homme, en tout cas, qui était sacrément engagé.
C'était un homme très engagé. La cause de la nature, au sens le plus large du terme, était pour lui le sujet majeur. Avec la capacité de replacer l'homme dans la nature, ce qui, à l'époque, n'était pas forcément évident. Et avec une formidable conviction de ce qu'on appelle aujourd'hui « One Health », mais à l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça.
Une seule santé.
Une seule santé, c'est-à-dire la symbiose entre l'homme et la nature dans laquelle il vivait.
Et alors, Corinne Lepage aussi, donc Jean-Marie, donc, avec vous, vous avez parti sur le CRIGEN, donc ça, c'était la grande époque, en fait, des OGM, mais vous avez réussi quand même à sacrément limiter l'affaire, justement.
Jean-Marie m'a totalement convaincu comme ministre de ce que c'était une hérésie, et moi, j'ai convaincu le gouvernement. Et donc, le gouvernement a décidé d'un moratoire sur la mise en culture des OGM, grâce à quelque part à Jean-Marie. Et après ma sortie du gouvernement, le sujet des OGM était bien planté en Europe quand même, parce que la France avait dit non, c'est elle qui était la plus active sur le sujet. Donc, quand l'année suivante, Dominique Voynard a réautorisé la mise en culture des OGM, en tant qu'avocate, cette fois-ci, j'ai obtenu la suspension au Conseil d'État de son autorisation. Donc on a continué. Et avec Jean-Marie, on s'est dit qu'il était indispensable de créer un organisme qui soit indépendant des lobbies pour discuter du sujet des OGM. D'où la naissance du CRIGEN.
Alors ce qui est aussi étonnant, c'est que cet homme-là était quand même extrêmement visionnaire. On le voit sur différents sujets. On ne parlait pas encore du vivant, mais on parlait de nature. Et a toujours été son grand œuvre, c'est-à-dire de relier l'humain à la nature. Bon, évidemment qu'aujourd'hui, on peut pas dire qu'il ait réussi, mais le sens de l'histoire, c'est quand même celui-là, quoi.
Bien sûr, on vit un backlash, un retour en arrière, mais je suis convaincue que c'est momentané. Le problème, c'est que ça arrive à un très mauvais moment, que ça va nous coûter très cher à la sortie. Mais les idées de Jean-Marie sont les idées qui vont dans le sens de l'histoire.
Qu'est-ce que vous aimiez au quotidien, j'allais presque dire, chez lui, lorsque vous étiez avec lui?
J'ai eu la chance de l'avoir très souvent chez moi, dans le Sud, ouais. À Noël, l'été, les discussions sans fin, son amour de la vie. C'est un homme qui aimait bien manger, ouais. Qui aimait bien boire, son amour de la vie.
Eh bien oui, c'est ça. Et puis lorsqu'il y avait du saucisson à table, je lui disais, écoute, ne mange pas trop de saucisson. Il dit, mais c'est pas grave, il est bio. Bah oui, c'était comme ça. Il était donc agrégé de pharmacie, botaniste, biologiste, écologue, chercheur, enseignant. Il a quand même signé plus de 120 publications, philosophe dans son jardin aussi. Et puis, écoutez ce qu'il disait donc de la nature, de notre rapport à la nature.
La nature, c'est pas nous qui l'avons fabriquée. Elle est bien antérieure à nous. Nous sommes dedans. Bon, on considère que c'est un truc... bon, c'est le décor, quoi. Voilà, je crois que cette sensibilité n'a pas encore complètement éclos et que, pour cette raison, beaucoup d'efforts aboutissent à de très petits résultats.
Alors, il a inspiré aussi pas mal de monde, et en particulier Marc-André Sellos, chercheur en biologie, spécialiste des sols, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Qu'est-ce que vous a appris Jean-Marie Pelt?
Oui, alors... Justement, c'est un moment de manque, hein, parce que ça fait partie des gens qui me manquent encore. Il m'a appris plusieurs choses. D'abord, j'ai beaucoup, avant même de le connaître personnellement, eu à apprendre de sa façon de parler, de sa façon à la fois calme et puis en même temps très précise, nourrie de données scientifiques, hein, mais de narrer, de raconter, de dire le vivant. C'était un conteur, hein. Donc il y a déjà la forme, et puis je l'évoquais en fait implicitement, il y a le fond, une grande précision, une fidélité aux données, et ça culminait dans la vie des plantes, hein. Il a fait là, un prodige d'innovation au service de la diffusion de l'information scientifique. Puis une dernière chose qui est plus personnelle, mais c'est quelqu'un qui avait une grande humanité pour les autres,
oui.
Et j'ai beaucoup appris moi de cette humanité dans ma propre vie, essayer de faire un peu plus attention aux autres, y compris aux contradicteurs.
Sinon, qu'est-ce qu'il a apporté de neuf d'un point de vue écologique? Parce que c'était une période où on en parlait relativement peu, quoi.
Une chose qu'on connaît peu de lui, parce qu'elle a été locale, et les solutions aujourd'hui sont souvent locales, hein, c'est l'élu qui a porté l'écologie, la nature dans la ville à Metz. Ça, les gens le connaissent peu, cet aspect-là. Mais Metz et les Messins portent encore la marque de ça. Cette restauration de la nature dans la ville, non pas comme un décor, mais une façon de vivre autrement, une façon de faire de la santé, de faire des fonctions écologiques comme des écrans contre la propagation des sons, des sols qui boivent l'eau quand il pleut trop, des îlots de fraîcheur. Et ça, tout ça, alors là je parle avec des mots actuels, mais tout ça, il l'a fait vivre localement. Et donc ce qui m'intéresse, c'est qu'au-delà de l'homme qui a écrit des livres et qui a éveillé des consciences, il y avait quelque chose de pratique. Voilà, c'était de l'écologie pratique. L'écologie comme outil.
Alors c'est vrai qu'il a fait deux mandats donc comme vice-maire donc à l'époque de Jean-Marie Roche, et il s'est dit il vaut mieux être à l'urbanisme parce que ça permet là effectivement quand même d'avoir la main sur quelque chose de tout à fait intéressant et de fort. Il a quand même évité que Metz soit plus ou moins éventré aussi par une voie rapide, que on fiche en l'air donc le vieux Metz, et puis il a été donc l'inventeur, on va dire, de l'écologie urbaine. Ça existait très très peu, cette affaire-là, et après des tas de gens sont venus le voir. Alors entre autres choses, c'est pas notre du tout, c'est qu'il était un des premiers à vouloir mettre des jardins et des potagers au sein des cours d'école, puisque donc les municipalités ont en charge les écoles maternelles. C'est un des initiateurs de cela.
Oui, à une époque où on fait la voie sur berge, à une époque où effectivement la voiture et le béton sont rois, et ça c'est des imageries populaires à un moment donné, hein. Mais avec les écoles, ils ne se trompent pas. Il fait à la fois de l'aménagement local, avec tout un tas de fonctions, et là, au passage on a une fonction alimentaire qui est très juste à rappeler, mais en même temps, en le faisant dans les écoles, il fait de la formation. Et c'est toujours lui, ça,
transmettre.
Et ça, ça vous parle, vous, parce qu'effectivement, ce côté pédagogique, vous êtes un des premiers à dire, mais attendez, on regarde les cours de SVT, Sciences et Vie de la Terre, aujourd'hui, c'est quoi? C'est une heure par semaine au collège, c'est pas suffisant.
Non, on se bat avec d'autres dans une grande fédération, la fédération BioG, qui regroupe le muséum et des académies, pour essayer d'élargir le temps d'enseignement des sciences de la vie et de la terre, d'avoir des programmations aux primaires. Mais derrière tout ça, il y a aussi le problème d'avoir les moyens de sortir les enfants vers la nature. Mais c'est résolu si la nature envahit l'école. Bon, mais il y a plein de solutions qui dorment pour faire une génération qui soit plus à même de veiller à la durabilité de son environnement et à sa santé. Et quelque part, on est tous des petits-enfants ou des enfants de Jean-Marie Pelt.
Eh ben oui, je confirme, merci Marc-André Sellos. Pas une journée sans penser à lui, mais avec beaucoup de joie, de légèreté et de force, parce qu'il restera donc dans le cœur des vivants. Voilà, c'était, moi je tenais vraiment à ce petit clin d'œil, et plus que ça, donc pour les 10 ans de sa disparition. Vous pouvez le réécouter, alors là vraiment aussi sur CO2 Mon Amour. Bon, j'espère que je vais arriver à fabriquer une peltothèque, parce que sur les 250 ou 300 enregistrements, j'aimerais bien qu'il y en ait à disposition d'une bonne soixantaine, voilà, qu'on puisse réécouter après comme on le désire. Merci à Julien Dumont, à Camille Blanès, à Jérôme Boulet qui a réalisé l'émission. Clin d'œil aussi à Xavier Pestugia, à Valentine Chédebois. Et puis la semaine prochaine, ça va être complètement autre chose. Ça va être une ronde de voix de France Inter qui vont nous raconter leur coin de nature. Bassin d'Arcachon, l'Orne, la baie de Somme, Corinne Audouin va nous emmener aussi du côté de Marseille. Il y aura Charline, il y aura Pastureau, bref. Et François Morel aussi. Donc ça, c'est pour la semaine prochaine. Je vous retrouve sur Instagram, sur LinkedIn, sur Blue Sky, sur l'application Radio France. Abonnez-vous et aussi aux éditos. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, quand même l'essentiel. Passez un bon Noël.